Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Les amis de Laurent Guay, c'est votre association Laurent Guay, bonjour.
Oui, bonjour. Heureux de vous retrouver.
Oui, moi aussi. Et puis heureux de retrouver aussi tous les parents, grands-parents peut-être qui vous écoutent, enseignants, proviseurs, tous ceux qui travaillent au fond, je dirais, auprès de cette jeunesse. Une jeunesse qui est peut-être encore plus aujourd'hui, depuis aussi nos crises sanitaires, en détresse. Alors, beaucoup d'espérance la semaine dernière avec votre deuxième livre, Troubadour d'espérance. Nous allons un peu revoir peut-être quelques visages aussi de ces jeunes que vous avez longuement écoutés et au fond accompagnés. On peut les découvrir dans vos ouvrages et sur votre site de l'association. Je pense notamment à Julien qui avait des problèmes d'addiction avec l'alcool.
Oui, mon bon Julien. voilà, Julien tout jeune est un enfant de grandes difficultés, de grandes souffrances, un enfant placé de foyer en foyer, et donc a commencé l'alcool très très tôt, la drogue, voilà. Et Julien, il m'a entendu quelques années, c'est un prêtre qui l'a emmené à une de mes conférences, et ça a tout de suite matché avec Julien, et en fait, Julien me l'a dit avec ses mots, c'était comme un grand frère pour lui, comme un modèle. Mais dit, voilà, le fait que toi, tu sois arrivé avec tout ce que tu as vécu, ça me donne une force pour moi. Alors, bien sûr, il y a eu des rechutes, c'est des jeunes très fragiles, mais je crois que ces rencontres, effectivement, portées dans notre prière, un peu, peuvent se concrétiser en véritable résurrection. Et Julien est vraiment dans cette voie de se reconstruire totalement. Aujourd'hui, Julien, il travaille, il a une vie, je dirais, à peu près normale par rapport à l'alcool. C'est vraiment une guérison aussi. Et c'est extraordinaire, quoi. Alors, il y a une multitude de jeunes comme ça, on peut pas suivre tout le monde. Mais c'est vrai que des rencontres, pour eux, c'est important de s'appuyer sur quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a réussi à s'en sortir. Ça leur donne une force. La force du témoignage, en fait.
Et la force et la puissance du témoignage. Et vous êtes aujourd'hui, depuis près de 20 ans, au fond, est-ce qu'on peut parler de grands témoins venus de l'enfer et revenus à la vie?
Oui, alors après, grand témoin, ça c'est... En tous les cas, un témoin, ça c'est sûr. Et avec une opportunité, une grâce que Dieu a donnée. Moi, vous savez, moi je suis sorti de l'école en quatrième. Hein. J'ai été déscolarisé.
Oui, mais vous avez un CAP d'électricien.
Oui, c'est ça.
Et voilà, vous allumez la lumière aujourd'hui, hein, dans les cas.
Oui.
Oui, ça clignote.
Et c'est pour ça, après, je suis un témoin avec ce que je suis, mais avec le désir de pouvoir aider, parce qu'on m'a aidé. Et pour moi, c'est important d'aider. Je crois que je l'ai dit à une des émissions précédentes.
Oui.
Quand on a réussi à surmonter une épreuve, des difficultés avec l'aide, bien sûr avec l'aide de Dieu, mais aussi avec des rencontres qui nous ont permis de nous reconstruire. Pour moi, c'est naturel de pouvoir aider les autres. Alors encore une fois, avec ce que je suis, comme je suis, avec mes limites, mais aussi avec cette conviction que une main qui est tendue pourra toujours relever une personne, si la personne le souhaite, bien sûr.
Alors,
tous ces jeunes que tous les jeunes que j'ai mis dans mes témoignages, c'est des jeunes qui ont accepté de reconnaître qu'ils étaient dans une problématique d'addiction ou dans une souffrance, et deuxièmement, qui ont eu le désir d'être aidé.
Oui,
on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas ce désir, quoi.
Alors, il y a aussi Camille.
Camille.
Camille. Ouais.
Alors, Camille, elle, c'est à l'école que je l'ai rencontrée. Et Camille, là aussi, son histoire, mon histoire, lui a permis de la rejoindre dans son histoire. Elle n'avait jamais parlé à personne de ce qu'elle avait vécu par rapport à des abus sexuels. Des attouchements en tout cas, et elle a pu en parler à un spécialiste, enfin un médecin, Voilà, il y a un accompagnement qui enfin un accompagnement, on garde toujours un contact comme ça, mais encore une fois, le fait d'entendre un message, le fait d'entendre un témoignage dans son école, pour elle, elle s'est sentie rejointe, elle est venue me parler, elle n'avait jamais dit à personne ce qu'elle avait vécu. Et voilà, a commencé un travail. Et moi, je l'ai encouragé, ce que je disais aussi dans les émissions précédentes, encouragé à aller voir un médecin. Et là, encore une fois, bon, il y a toujours cette fragilité, mais je sens une jeune fille qui, voilà, qui ça y est, qui rentre pleinement dans son histoire, qui rentre pleinement dans sa destinée, malgré la souffrance qu'elle a vécue. Hein.
Mmh. Il y a l'histoire aussi de Lucas.
Lucas, c'est par rapport
à la scarification.
Oui, c'est ça.
Ouais,
c'est vraiment l'expression d'un mal-être, hein. C'est d'un mal-être profond qui s'exprime par un mal qu'on va se faire. C'est-à-dire que, au travers d'un compas, au travers d'un objet tranchant, et en fait, c'est vraiment cette souffrance. C'est-à-dire, ils se font pas du, c'est pas une recherche de plaisir comme dans la drogue, par exemple, ou des choses comme ça, où on va compenser. Là, c'est vraiment, la douleur physique va avoir cette sensation, cette impression de les soulager. Alors bien sûr, hein, on est dans un problème de santé mentale. Hein. Là, faut bien comprendre que il y a d'autres moyens d'exprimer cette souffrance. Et Manon, alors il y a Lucas, hein, qui nous en parle, parce que moi j'aime bien qu'ils expriment avec leurs mots.
Oui.
Et Manon le disait avec ses mots à elle, j'ai l'impression d'être comme une morte vivante. Hein, c'est-à-dire que voilà, j'avais plus de vie, quoi. Ma vie, c'était une souffrance, et le fait de se faire du mal, hein, ça la réveille, quoi. Enfin, ça la réveille. Et puis le sang qui est le symbole de la vie. Mais il faut bien comprendre que même, encore une fois, si on comprend pas ce geste, parce que pour nous, ça nous paraît fou, quoi. Des parents qui m'entendent, ils ont, voilà, ils n'arrivent pas à comprendre comment que ça se fait, comment on peut se faire autant de mal. Mais on peut comprendre la souffrance. Et à partir du moment où on comprend la souffrance, on peut comprendre que notre enfant, s'il pratique la scarification, c'est une souffrance. Donc, c'est pas anodin, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui malheureusement est une porte à des comportements à risque. Vraiment, là, on peut
considérer ces comportements qui suicidaires.
Exactement.
Quand vous décrivez un peu, je dirais, les symptômes de ce mal-être, hein, qui conduit finalement à se faire mal volontairement. C'est une autodestruction.
C'est une autodestruction.
Alors, les parents qui vous écoutent, Laurent Guay, comment doivent-ils réagir si ils se rendent compte que leur ado, fille ou garçon, sont en train de se scarifier, de se faire vraiment mal, de s'abîmer? Comment réagir? Amener tout de suite vers un professionnel? Alors, et vers qui se tourner?
Exactement.
Ouais.
Et surtout, encore une fois, même si on ne comprend pas, on peut avoir de l'empathie, de la compassion. C'est-à-dire que là, notre enfant souffre. Et donc, se mettre au niveau de notre enfant dans cette souffrance. Et dire, écoute, moi, je te vois souffrir. Je suis ton père, ta mère. Voilà, ça me fait tellement mal. Je veux t'aider. On est là pour t'aider. On te soutient. On sera là et on ne te lâchera pas. Voilà. Mais vraiment dans une démarche de compassion totale, c'est-à-dire souvent le réflexe qu'on a quand on a un enfant qui est en dépression ou qui est dans la scarification, hein, c'est de l'engueuler, c'est de vouloir le secouer, peut-être que c'est pas la meilleure méthode parce que c'est une souffrance. Voilà. Et quand on est face à quelqu'un qui souffre, hein, voilà, on va essayer d'adopter une attitude d'accompagner cette souffrance du mieux possible, hein, c'est-à-dire je suis là. Hein, avec ton père, avec ta mère, on est là. On va t'aider. On va t'aider à trouver le moyen de pouvoir. Voilà. Et il y a des méthodes. Et il y a des.
Il y a des moyens aujourd'hui.
Il y a des moyens.
Il y a des moyens.
Exactement. Pour pouvoir. Mais encore une fois, je le dis aux parents, le plus compliqué, c'est souvent qu'on s'en rend pas compte. Le nombre d'enfants qui m'ont exposer leurs problèmes d'harcèlement, de dépression, ils en ont jamais parlé à leurs parents.
Alors vous l'expliquez comment, vous qui les écoutez, qui rencontrez ces jeunes, ce silence finalement de ces ados qui parfois se font racketter, se font harceler et les parents ne voient rien à la maison.
Alors, c'est plus, je dirais, par souci de ne pas inquiéter les parents. Il y en a qui ont honte. Vous savez, le harcèlement, c'est terrible.
Hein, vous l'avez vécu petit, à l'âge de 8 ans.
Ah ben, oui,
et votre histoire a commencé avec ce premier racket.
Exactement.
Vous étiez un petit garçon de 8 ans et puis ce petit garçon, eh bien, un jour s'est réveillé et il est devenu presque un grand garçon dans le monde des adultes et des caïds. Hein.
Voilà, il a fallu se défendre de ce monde, mais moi j'avais peur d'aller à l'école. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des phobies scolaires.
Oui.
Ils ont peur. Alors, le monde de l'harcèlement, c'est terrible. Là aussi, il faudrait une autre émission.
On vous retrouvera, Laurent.
Et souvent, c'est ça. Alors, pouvoir trouver le dialogue avec ses enfants. Et quand je parle de dialogue, c'est pas juste ça va. Hein, c'est essayer de discuter. Voilà, qu'est-ce que notre enfant a ressenti. Voilà, dans son cours, comment que ça se passe dans la cour, avec qui il est, avec qui il traîne. Voilà, ses amis. Voilà, et puis essayer de savoir ses passions. Enfin, voilà, avoir une discussion qui en fait, être en communion avec, en communication pour être en communion avec notre gamin.
Vous êtes en train de donner la clé, je dirais, à ceux qui vous écoutent, c'est ne jamais perdre le contact et la relation avec ses enfants.
Oui, et toujours, voilà, que les ados se sachent toujours soutenus. Et je le dis aux parents, c'est pas, en disant rien, en se disant, bon, bah, ça va passer. Non, ça, bien sûr, ça passera. Mais, voilà. Prendre conscience que, écoute, je te sens pas bien là en ce moment. Tu veux qu'on en parle. Prendre du temps aussi. Tiens, je te propose on va se faire une balade, on va se faire un ciné, on va se faire un fast-food ou je ne sais rien quoi. On va essayer de prendre du temps particulier, privilégié avec son enfant qui est, qu'on sent ou qu'on présente. Sinon, on peut aussi demander à ses amis, moi je sens, ou à son prof principal, faut vraiment. Voilà, sent qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est un signal. Hein.
Oui.
Alors, si j'ai quelques minutes, je voudrais rassurer quand même les parents.
Alors, on va rassurer les parents dès la semaine prochaine. On va les rassurer avec cette association que vous avez fondée. Il y a toute une équipe à côté de vous et avec vous aujourd'hui. Hein. Vous ne travaillez pas seul, vous ne missionnez pas seul non plus. On vous retrouve, si vous le voulez bien, dans Des Clés pour Grandir dans ce même lieu, cette même émission. Je rappelle qu'on peut aussi se procurer, offrir vos deux ouvrages aux éditions des Béatitudes, à Rachel Enfer, La résurrection d'un toxico et puis Troubadour d'espérance. Laurent Guay, merci de votre intervention. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.